C'était un soir fatal, je crois. Car tandis que je furetais parmi les tables, j'en aperçus une sur laquelle était ouverte un manuscrit qu'un moine copiait en ces jours-là. Aussitôt, le titre me requit. « Historia fratris dulcini heresiarche ». Je crois que c'était la table de pierre de Sant'Albano, dont on m'avait dit qu'il écrivait une histoire monumentale de l'hérésie. Après ce qu'il advint à l'abbaye, il ne l'écrivit naturellement plus, mais n'anticipons pas. Rien d'anormal, donc, que ce texte fût ici accompagné d'autres d'ailleurs aux sujets analogues sur les patarins et sur les flagellants. Mais je pris comme un signe surnaturel, je ne sais encore si céleste ou diabolique, cette circonstance, et je me laissai aller à lire l'écrit avec avidité. Il n'était pas très long, et dans la première partie, il disait avec beaucoup plus de détails que j'ai oublié ce que m'avait dit Hubertin. On y parlait aussi des nombreux crimes commis par les Dolciniens durant la guerre le siège, et de la bataille finale qui fut des plus sanglantes. Mais j'y trouvai en plus ce qu'Hubertin ne m'avait pas raconté, et dit par qui avait évidemment tout vu et en gardait encore l'imagination enflammée. J'appris donc comment, en mars de l'an 1307, le samedi saint, Dolcino, Marguerite et Longin, enfin pris, furent conduits dans la ville de Biella et remis à l'évêque, qui attendait la décision du pape. Le pape, sitôt qu'il apprit la nouvelle, la transmit au roi de France, Philippe, en écrivant « Des nouvelles infiniment agréables nous sont parvenues, fécondes en joie et allégresse, pour ce que le démon pestifère, fils de Bélial et grand horreur hérésiarque Dolcino, après de longs dangers, des peines et des massacres incessants et de fréquentes incursions, est enfin avec ses partisans prisonniers dans nos prisons, grâce à notre vénérable frère Raniero, évêque de Versailles, capturé en le jour de la Sainte Cène du Seigneur, et la nombreuse gente qui était avec lui, infectée par contagion, fut tuée ce jour même. Le pape se montra impitoyable en regard des prisonniers, et il commanda à l'évêque de les mettre à mort. Alors, en juillet de la même année, le premier jour du mois, les hérétiques furent remis aux bras séculiers. Tandis que les cloches de la ville sonnaient à toute volée, on les plaça sur un chariot entouré de bourreaux, suivi de la milice, qui parcourut toute la ville et à chaque coin de rue, avec des tenailles rougies à blanc, on déchirait les chairs des coupables. Marguerite fut brûlée la première, devant Dolcino, dont pas un seul muscle du visage ne bougea, tout comme il n'avait pas émis une plainte lorsque les tenailles lui mordaient les membres. Après quoi le chariot poursuivit sa route, alors que les bourreaux enfilaient leurs fers dans des vases pleins de flambeaux ardents. Dolcino subit d'autres tourments, et il resta toujours muet, sauf quand on l'amputa de son nez car il haussa légèrement les épaules, et quand on lui arracha le membre viril, car là il poussa un long soupir, comme un glapissement. Ses dernières paroles témoignèrent de son impénitence, et il avertit qu'il ressusciterait le troisième jour, puis il fut brûlé et ses cendres furent dispersées au vent. Je fermai le manuscrit, mes mains tremblaient. Dolcino avait commis beaucoup de crimes, m'avait-on dit. Mais il avait été horriblement brûlé. Sur le bûcher, il s'était comporté... comment ? Avec la fermeté des martyrs, ou avec l'opiniâtreté des damnés. Tout en montant d'un pas chancelant les escaliers qui menaient à la bibliothèque, je compris pourquoi j'étais si troublé. Je me rappelais soudain une scène que j'avais vue peu de mois auparavant, juste après mon arrivée en Toscane. Je me demandais même comment j'avais pu quasiment l'oublier jusqu'à présent, comme si mon âme malade avait voulu effacer un souvenir qui pesait sur elle comme un incube. Au vrai, je ne l'avais pas oublié. Car chaque fois que j'entendais parler des fraticelles, je revoyais des images de cet événement, pour aussitôt les chasser encore dans les replis de mon esprit, comme si cela avait été un péché que d'être le témoin d'une pareille horreur. J'avais pour la première fois entendu parler des fraticelles les jours où, à Florence, j'en avais vu brûler un sur son bûcher. Cela s'était passé peu avant que je ne rencontrât Pise, frère Guillaume. Il retardait son arrivée dans cette ville, et mon père m'avait donné l'autorisation de visiter Florence, dont nous avions entendu louer les superbes églises. J'avais circulé à travers la Toscane pour apprendre mieux le vulgaire italien, et j'avais enfin séjourné une semaine à Florence, car j'avais beaucoup entendu parler de cette ville et je désirais la connaître. Ce fut ainsi qu'à peine arrivé, j'entendis qu'une affaire faisait grand bruit et agitait de fond en comble la cité. Un fraticel hérétique, accusé de crimes contre la religion, et amené devant l'évêque et d'autres ecclésiastiques, était ces jours-là soumis à sévère inquisition. et tout en suivant ceux qui m'en parlaient, je me transportais sur les lieux de l'événement. J'entendais les gens dire que ce fraticelle de nom Michel était en vérité un homme fort pieux, qui avait prêché pénitence et pauvreté, en répétant les paroles de saint François, et qu'il avait été traîné devant les juges du fait de la malice de certaines femmes qui, feignant de se confesser à lui, lui avaient ensuite attribué des propositions hérétiques. Mieux, il avait été pris par les hommes de l'évêque précisément dans la maison de ces femmes, ce qui ne laissait pas de m'étonner car un homme d'église ne devrait pas aller administrer les sacrements en des lieux aussi peu convenables. Mais, semblait-il, c'était la faiblesse de fraticelle que de ne point tenir en juste considération les convenances, et peut-être y avait-il du vrai dans la rumeur publique qui les voulait, outre qu'hérétique, demeure douteuse, ainsi qu'on le disait toujours des cathares, traités de bulgares et sodomites. J'arrivais à l'église sans salvator, où se tenait le procès. Mais je ne pus entrer tant la foule était nombreuse sur le parvis. Certains cependant s'étaient hissés et agrippés à la grille des fenêtres et voyaient et entendaient ce qui se passait dans l'église, et ils le rapportaient aux autres en dessous. On était alors en train de relire à frère Michel les aveux qu'il avait faits la veille, où il disait que Christ et ses apôtres n'eurent aucune propriété ni privée ni commune. Mais Michel protestait que le tabellion y avait ajouté maintenant moult fausses conséquences, et il criait, et cela je l'entendis de dehors, « Vous m'en rendrez raison le jour du jugement. » Mais les inquisiteurs lurent la confession telle qu'ils l'avaient rédigée, et pour finir, ils lui demandèrent s'il voulait humblement se conformer aux opinions de l'Église et du peuple entier de la ville. Et j'entendis Michel qui criait bien haut que lui, il voulait s'en tenir à ce qu'il croyait, c'est-à-dire qu'il tenait Christ pour pauvre crucifié et pape Jean XXII pour hérétique, puisqu'il disait le contraire. Il s'ensuivit une grande discussion où les inquisiteurs, parmi lesquels nombre de franciscains voulaient lui faire comprendre que les Écritures n'avaient pas dit ce qu'il disait, lui, et lui les accusait de nier la règle même de leur ordre, et les autres fulminaient contre lui, demandant s'il croyait par hasard mieux entendre les Écritures qu'eux-mêmes qui étaient les maîtres en la matière. Et Fra Michel, avec grande opiniâtreté vraiment, les contestait, tant et si bien que les autres se mettaient à l'invectiver avec des provocations du genre « Et alors, nous voulons que tu tiennes Christ pour grand propriétaire et pape Jean pour catholique et saint ?» Et Michel, sans en démordre, « Non, hérétique. » Et eux de dire qu'ils n'avaient jamais vu personne d'aussi obstiné dans sa propre infamie. Mais parmi la foule, hors du palais, beaucoup disaient qu'il était comme Christ au milieu des pharisiens. Et je m'aperçus que dans le peuple beaucoup croyaient en la sainteté de frère Michel. Enfin, les hommes de l'évêque le ramenèrent en prison dans les fers. Et le soir, on me dit que nombre de frères, amis de l'évêque, étaient allés l'insulter et lui demander de se rétracter. Mais lui, il répondait comme certain de sa propre vérité. Et il répétait à chacun que Christ était pauvre, comme l'avaient dit aussi saint François et saint Dominique, et que si pour professer cette juste opinion il devait être condamné au supplice, tant mieux, car il pourrait voir sans tarder ce que disent les Écritures et les 24 vieillards de l'Apocalypse et Jésus-Christ et saint François et les glorieux martyrs. On me rapporta qu'il dit « Si nous lisons avec une telle ferveur la doctrine de certains saints abbés, avec quelle ferveur redoublée et quelle joie ne devons-nous pas désirer d'être au milieu d'eux ?